Et après, je me suis dit, est-ce que moi, je n'ai pas théorisé cette histoire, hein. Je vais juste un peu vous la raconter comme je l'ai vécue. Et puis après, bon, je répondrai aux questions. Je pense que quand on a créé le labo, on n'était pas dans les relations interethniques du tout. Ce n'était pas notre vocabulaire. Ce n'était pas notre grille d'analyse. Ce n'est pas comme ça qu'on a démarré d'où vient l'URMIS? Elle vient d'un labo qui était au centre d'études sociologiques et qui s'appelait au début, autour de Dominique Lahal, ERSMOI. Ça veut dire équipe de recherche sociologique sur la main-d'œuvre immigrée, ce qui marque bien ce qu'était son enracinement autour de la grande vague migratoire qui venait d'arriver dans les grandes entreprises, l'automobile, etc. Et les recherches qui commençaient à se mener sur Renault, aussi bien sur les foyers sur la Cotra, sur les questions des bidonvilles. Donc, on n'était pas, disons, dans une optique de relation interethnique. C'est arrivé plus tard, c'est arrivé à l'aide de certaines personnes. D'abord, la rencontre avec l'IDERIC et le SOLIS, vous avez été très important pour nous, toutes les publications. La rencontre avec des personnages comme Daniel Juteau, la présence quand même dans l'URMIS au début de Colette Guillaumin, qui nous avait ralliés. Donc, il y a eu des éléments, mais c'était pas l'objectif de départ, c'était pas la pensée de départ. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que les autres ne le renieraient pas, c'était pas notre problème. Nous, notre question, c'était de faire reconnaître la question des migrations internationales qui n'avait aucune légitimité réelle dans le domaine. Les gens qui travaillaient sur les migrations, c'était les géographes et les démographes. Il y avait pratiquement rien en sociologie, très peu de choses en histoire. Je l'ai raconté dans mon livre personnel, mais je l'ai raconté dans le livre qui est paru au Pur. Commencer à travailler sur l'immigration dans les années où je l'ai fait, les années 70, il n'y a pas d'histoire de l'immigration constituée, pas plus qu'histoire de la colonisation d'ailleurs. La sociologie française, ça ne l'intéressait pas spécialement, quand on cherchait chez les grands ancêtres. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans les séminaires que notre petit groupe a commencé à faire? On a commencé à lire Chicago, on a lu des historiens comme Serge Bonnet ou des choses sur la sidérurgie, etc. Mais, donc vous allez avoir un tournant qui va se passer dans les années 80, au moment où un certain nombre d'entre nous vont passer les tests d'État et pouvoir, je reviendrai, instituer le champ. Gérard Noiriel, Catherine Vitole de Vanden, Marie Stripier, Janine Ponty, c'est quoi? C'est 84, 85, 86. Et c'est à partir de ce moment-là que derrière nous, il peut y avoir des doctorants sur ces sujets, en tout cas dans la région, en tout cas à Paris. Donc on n'est pas tellement sur ce sujet au départ. Et on voulait faire entrer ce domaine dans la sociologie, mais enfin, moi et puis d'autres, on n'avait pas l'intention de faire une sociologie spécialisée. Notre hantise, c'était la sociologie du travail social ou la sociologie de... Comme si c'était un objet. Ce qu'on avait retenu des Américains, c'est que c'était une dimension de la vie sociale, comme le genre, la classe, etc., et que ça manquait dans la plupart de nos travaux, mais le but n'était pas d'avoir la sociologie d'un public ou la sociologie d'une catégorie, mais de faire entrer l'idée que les origines et le parcours migratoire étaient une dimension de l'existence d'un certain nombre de gens et qu'il fallait le prendre en compte. J'ai raconté souvent la blague quand on était dans un tout petit bureau du centre d'études sociologiques et que Jacques Lotman était à l'époque directeur des sciences humaines et sociales, il avait amené un charmant anglais pour voir le labo sur les migrations, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, et ils ont fait l'oiseau migrateur. Voilà, c'était ça l'image des migrations quand on a commencé. Alors, peut-être ça vous intéressera autrement, mais quelques petits portraits des fondateurs. J'en prends quatre. Je prends Véronique de Ruder, François Vourche, Isabelle Stavoada, Leonetti et moi-même. Au départ, il y a eu aussi Sophie Vaudigendreau, mais elle n'est pas restée longtemps. Et je me suis dit, bon, d'abord, il faut que je sois là, parce qu'eux n'y sont plus, ils ne peuvent plus parler en notre nom à tous. Mais en termes théoriques et politiques, Véronique de Ruder, elle était marxiste. Elle était comme moi, on était assez coco, on était de gauche, et on regardait la question des migrations dans le cadre de la transformation de la classe ouvrière, des changements, etc. Mais elle, très tôt, a dit, il y a un point noir, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, le marxisme ne suffit pas, il faut aller regarder d'autres dimensions qui sont pas présentes, un peu comme Sayad d'ailleurs, c'est-à-dire la relation de pouvoir, la relation de domination, la question du racisme, etc. Donc, mais c'était un peu son cadre d'analyse. François, si certains se rappellent de lui, François adorait les minorités. Il était sur majoritaire-minoritaire, c'était ça Il a fait des films sur les autochtones en Australie. Il a fait des. Donc il était lié à l'injustice et à la question de la stigmatisation des minorités. Il n'était pas. C'est comme ça que je le vois maintenant. Hein. Enfin, je l'ai connu à l'époque aussi. Hein. Et puis il a beaucoup travaillé avec Véronique et avec nous tous. Hein. Il était avec moi sur ma thèse d'État, sur ma thèse de troisième cycle. Il y avait Isabelle Taboada qui, comme elle était psychosociologue de formation, était la plus branchée sur la question des rapports entre cultures. D'ailleurs, elle a collaboré avec la revue Culture et elle s'intéressait aux transformations de la culture, aux enfants de l'immigration, aux filles, à la question des mariages, etc. Bon. Et je dirais qu'elle n'était pas dans le vocabulaire des relations interethniques, mais elle était dans la question de la transmission culturelle et du contact culturel ou du conflit de culture. Elle était peut-être la plus intéressée sur ces questions dans ses travaux. Donc on était cette bande de quatre. Les plus engagées sur le plan militant, c'était Véronique qui a été très très vite conseillère scientifique au MRAP. Et puis moi, qui tout le monde sait, ma faucille, mon marteau, etc. Donc qui était en essayant d'animer la lutte antiraciste là où j'étais. Et je sais que, enfin, c'est Patrick qui nous l'a dit une fois, que l'URMIS a été vue au départ comme une équipe assez, assez, assez gaucho, assez militante. Bon. Moi, ce que je dis, c'est que c'était super parce que c'était une des premières équipes à l'époque dirigée par une femme. Et en plus, avec sa faucille, son marteau, on me l'a fait remarquer lourdement au moment de nous créer, je vous signale. Hein. Le couple Valade et machin, là, Michelon, que j'ai appelé Vachon et Malade, m'ont fait entrer avec le président de l'université qui soutenait notre candidature en nous disant, Madame, on vous fait une fleur, hein, compte tenu de ce que vous êtes. Très bien. Bon, et c'est aussi, voilà, il y a un effet de hasard dans notre construction institutionnelle et notre rapprochement avec Nice, c'est-à-dire toutes les deux jeunes équipes qui cherchent à se créer et puis eux qui trouvent la solution en nous mettant ensemble, en fait, au départ. Et heureusement qu'on avait les mêmes thèmes, les mêmes envies, les mêmes idées, mais on n'avait pas la même histoire. C'est-à-dire que Solis a une histoire, alors que l'URMIS n'en avait pas. D'accord? Elle avait très peu d'histoire, une histoire très courte autour de Dominique Lahal et des enquêtes. Et donc, vous avez une histoire que vous célébrez aujourd'hui, enfin, ou que vous revivifiez aujourd'hui. Moi, je dirais que l'URMIS n'avait pas cet héritage historique, etc. Et après, bon, grâce au Gréco, on pourra en parler. Je dirais qu'on s'est posé deux questions, vous et nous, tout le monde ensemble, construire un cadre scientifique et construire un cadre académique. Alors, le cadre scientifique, c'était compliqué puisque, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas d'ancêtre français, un grand sociologue. Voilà, on allait chercher Zimmel, on allait chercher à Chicago, etc. Mais si on allait chercher dans la sociologie française, il n'y avait pas grand-chose chez les grands auteurs qu'on enseignait. Donc, parce que, bon, on pourra revenir dessus si vous voulez, mais c'était chez Durkheim, la pensée sur l'intégration n'était pas une pensée concernant l'immigration. C'était comment l'école fait noyau, forme le lien social, et il n'y avait pas de considération particulière. Donc on a dû construire ce cadre scientifique avec donc des géographes, des démographes. Et puis le grand intérêt de la création du Gréco 13, c'est d'avoir mis ensemble des chercheurs individuels qui étaient disséminés dans toute la France et qui ne se connaissaient pas. C'est grâce au Gréco que s'est créé un milieu scientifique où il y a eu interconnaissance. Après, on s'est retrouvés dans les jurys de thèse, dans les colloques, etc. J'ai avec moi les principales publications de ce Gréco. C'est Dominique Lahal, grâce et aussi le ministère des Affaires sociales, le FAS, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui a créé le Gréco, qui n'a pas d'ailleurs eu une vie extrêmement longue, mais qui avait rempli sa mission, je dirais. C'est-à-dire de faire se connaître et se rencontrer des gens qui étaient très divers, de disciplines très diverses et qui ne travaillaient pas ensemble. On fera d'ailleurs une remarque. Quand le Gréco est créé et qu'on commence, il existe deux équipes dédiées à l'immigration. Migrinter et l'URMIS, et on est en 2016, il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y a mais pas du tout pour les mêmes raisons. À l'époque, c'est parce que personne ne s'intéressait au sujet, et maintenant, je dirais, c'est parce qu'il y a des choses sur l'immigration, des thèses, des recherches partout, ou beaucoup plus, dans d'autres équipes que la nôtre. Mais des recherches, ça m'a fait. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres équipes dédiées? Ben, il n'y en a pas plus, mais c'est exactement pour les raisons inverses. Donc. Ça, c'est... Donc, notre formation scientifique, on se les construit nous-mêmes. Je raconte dans ce livre comment... Moi, j'ai commencé par la question des OS, etc. Bon, voilà, je lisais la littérature sur les années 70, sur les OS. Mon premier patron de thèse, c'était Touraine. Hein, c'était pas du tout un spécialiste de l'immigration. D'ailleurs, il n'y en avait pas. Donc, on faisait partie d'un contexte scientifique qui était particulier, mais dont la question des migrations était totalement absente. Alors... Si ça vous intéresse, je peux vous refaire les étapes institutionnelles de la création de l'URMIS et comment c'est lié, etc. Bon, mais je ne veux pas empiéter, je sais que Aude et Camille ont commencé un projet de recherche sur le sujet avec des interviews, des archives, etc. Donc j'ai ce qu'elles m'ont donné de plus limité, mais il y a un projet de recherche sur l'évolution socio-anthropologique du champ des relations interethniques qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais ça s'appelle RI. Socio-histoire du champ des relations interethniques en France. Bon. Alors, je leur ai dit d'ailleurs que j'étais pas sûre qu'au début on était dedans. Pour moi, on n'était pas forcément dedans dans ce champ. On y est arrivé. On y est arrivé petit à petit. Et en plus, je vous fais part de ma dernière discussion avec Véronique avant son décès. On discutait de l'intersectionnalité. Et toutes les deux, on disait bon, c'est bien là. Parce qu'il faut parler de la classe, il faut parler genre, il faut parler race, hein, c'est important d'avoir mis tout ça ensemble, mais on peut en faire mieux encore, et on peut faire de la socio tout court, c'est-à-dire il peut y avoir du territoire, de la génération, ça dépend des situations, et, des cas, on n'a pas de théorie, sauf pour dire une bonne sociologie, c'est une sociologie qui, dans une situation donnée, prend en compte tous ces débats. Avec l'idée qu'on n'avait pas envie d'entrer dans une discussion qui est la classe avant tout. La classe, c'est le plus important. Tout le reste, c'est pas très, c'est des variations, etc. Ou bien alors le genre. Le patriarcat, c'est ce qu'il y a de plus ancien, de plus important. C'est plus important que la classe, c'est plus fondamental, c'est plus, etc. Et donc les variations de classe et de race du côté des femmes, bon, c'est... C'est secondaire. Et puis alors, la race, c'est fondamental, c'est la domination principale. Donc, où on rentre dans une logique de hiérarchisation de ce qui est considéré comme dirait Marx, le plus fondamental en dernière instance, ou bien, en tant que sociologue, on dit, on voit. Et on voit ce qui se passe dans différents cas, différentes situations, etc. Quand on a vu le documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'Arte, sur James Baldwin, là, il n'y a pas longtemps, on voit que la race, là, elle est noire. On va pas faire des miracles. Et puis la France, c'est autre chose. Alors, sur le cadre scientifique, on a essayé de le construire et on est arrivé aux relations interethniques, en particulier Véronique, d'abord par sa contribution à l'équipe plurielle, avec Pierre-Jean Simon, etc., et par sa proximité. C'est elle qui nous a fait connaître Daniel Juteau. On a aussi appris en lisant... Streff Poutinia, Barthes, etc. Donc moi, personnellement, je n'étais pas partie de ce champ et j'y suis arrivée tout en pensant qu'il n'est pas un champ exclusif quand on fait de la socio. Voilà, c'est tout. On a ça et on a tous les autres. Alors, construire le cadre académique, bon, si on remonte aux années 90 à peu près, on est en 2016, voilà, il a fallu 30 ans pour construire un cadre académique. Construire un cadre académique, c'est construire un cadre institutionnel et avoir une reconnaissance académique. Et donc, je souligne, en tout cas pour l'URMIS Paris, que c'est grâce à l'université et c'est grâce à l'enseignement que nous sommes arrivés à avoir une équipe de recherche. C'est parce que notre équipe, qui était une espèce de groupement, hein, qui n'avait pas était liée à un DEA, le DEA qu'on a monté avec Migrinter à l'époque. On a été équipe d'accueil, puis jeune équipe, etc. Et le CNRS, bien content de nous accueillir à l'époque, parce qu'il avait des chercheurs isolés partout, Cordero ici, Guillaume là-bas, donc on leur a offert un cadre d'accueil, disons. Mais je dirais que le rôle de l'université a été plus important que celui du CNRS, qui à l'époque nous disait, on ne crée pas d'équipe, on ne fait rien, c'est fini, on n'a pas de sous, etc. Donc moi, je lis beaucoup la construction du champ académique à la relation enseignement-recherche, au niveau doctoral, d'avoir pu créer ces doctorats. Je le lis aussi avec l'enseignement en formation initiale. Il n'y avait aucun poste ni sur le racisme, ni sur l'immigration pendant des années. Il a fallu qu'on forme des gens et qu'il commence à y avoir des postes. Si Aude a eu un poste, si Mona Tersigny a eu un poste, etc., c'est parce que le domaine a commencé à être reconnu. Avant, c'était zéro. Et je suis très fière, j'ai fait le premier enseignement, je crois, en France, en formation initiale à Paris 7, avec Benjamin Stora, qui à l'époque avait été un petit peu poussé là par Fougérolas, par amitié diverses, etc., comme maître de conférences en sociaux, c'est pas vraiment sa spécialité. Mais on a fait un cours commun qui s'appelait Initiation à l'étude des migrations internationales dans les années 80. Ça n'existait nulle part ailleurs, il n'y avait pas de formation initiale sur le sujet. Et il y a eu, puis il y a eu un CDEA et un DESS que dirigeait Claude Liosu, qui était déjà sur les, qui était lié aux questions du développement. Donc, pour moi, il faut lier la constitution du champ scientifique à la constitution du champ académique. Sinon, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de transmission, etc. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, il y avait science et engagement, hein, donc c'était assez fort. Mais s'il faut donner un petit regard, moi, je pense qu'il y a eu des années creuses sur le plan scientifique. C'est les années qui sont dominées par le problème de l'intégration. C'est-à-dire que ça nous a pompé l'air pendant, je ne sais pas combien d'années, dans les années 80, jusqu'à faire des échelles d'intégration. Je me rappelle quelqu'un qui était venu voir, si vous souvenez de lui, Mohand Khalil, il me dit « je vais faire une échelle », je dis « surtout pas ». Mais des trucs de base, quoi. Bon. Donc c'était, ça a été extrêmement peu productif, cette période, et puis l'enquête Tribala, qui est MGIS de l'époque, qui est tout sous le signe de assimilable, non assimilable, intégrable, non intégrable. Je pense que ça nous a fait perdre un temps considérable. Et curieusement, je ne sais pas si c'est ça, dans le même temps, le mouvement antiraciste s'affaiblit. Hein, et on a une période où le mouvement antiraciste s'affaiblit. On s'en aperçoit aujourd'hui que le mouvement antiraciste s'est bien affaibli pendant certaines décennies. Donc, la problématique de l'intégration... Mais moi, je fais mon mea culpa. Moi aussi, j'emploie tous les mots qu'il ne faut pas. Hein. Les Français de souche, l'intégration, etc. J'ai tous utilisé. Hein. Mais après, j'ai changé d'avis très rapidement quand on m'a expliqué pourquoi il fallait s'arrêter. Et je vais m'arrêter parce que je crois que j'ai pris mon temps, peut-être, des 15 minutes. Et si vous voulez, je répondrai aux questions. Merci.